Voix Nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Michel Alberganti rencontre Françoise Barré-Sinoussi. Ce soir, la découverte du virus du sida.
Françoise Barré-Sinoussi, bonsoir.
Bonsoir.
Nous poursuivons ce soir votre parcours de chercheuse. Nous sommes en 1975 et après avoir obtenu votre doctorat à 27 ans, alors que vous travaillez dans le laboratoire de Jean-Claude Sherman, vous êtes partie aux États-Unis pour être stagiaire post-doctorante grâce à une bourse de la National Science Foundation, la NSF. Alors vous ne restez qu'un an aux États-Unis, à la fois parce que l'INSERM vous offre un poste que vous avez demandé depuis là-bas et que vous avez rencontré votre futur mari pendant ce doctorat. Vous épousez en 1978 Jean-Claude Barré, qui est ingénieur du son à Radio France, ce qui nous rapproche de lui.
Tout à fait. Mais en fait, bon, c'est vrai que je suis resté qu'un an, mais pas seulement parce que j'ai obtenu un poste et pas seulement parce que j'avais rencontré mon futur mari, mais aussi parce que finalement, travailler dans le contexte américain, autant ça apporte beaucoup de choses et je regrette absolument pas parce que j'ai beaucoup appris pendant ce séjour d'un an, mais que la vie dans le contexte américain, la vie américaine ne me satisfaisait absolument pas, à vrai dire, et que revenir dans le contexte européen me satisfaisait mieux par rapport à ma propre vision et culture.
Et vous revenez dans le laboratoire de Jean-Claude Sherman.
Tout à fait, oui.
À l'Institut Pasteur.
Oui, tout à fait. Qui avait déménagé et ouais. Qui était maintenant à Paris.
Alors pourquoi ce choix, il était naturel peut-être? Comment avez-vous décidé de revenir dans ce laboratoire?
C'était déjà un accord, je dirais, avant même mon départ aux États-Unis, d'aller avoir cette expérience postdoctorale aux États-Unis et de revenir après pour continuer à travailler avec lui sur ses relations rétrovirus-cancer, qui était franchement quelque chose qui me passionnait, que j'avais envie de continuer de toute façon. Donc, comme lui travaillait et était passionné aussi sur ce sujet, bon, c'était tout à fait naturel que je revienne chez lui. Et puis, lorsqu'on a déposé justement mon dossier pour essayer d'avoir un poste à l'INSERM, on l'a déposé sur un sujet que je réaliserais dans le laboratoire de Jean-Claude Sherman. Puisque pour avoir un poste dans un organisme de recherche comme l'INSERM, il faut proposer un sujet de travail et un laboratoire d'accueil.
Très bien. Et donc, vous revenez à cette époque-là, donc en 1975. Et il se trouve que quelques années plus tard, en 1981, l'épidémie de sida se déclare. Et donc, dans le laboratoire de Jean-Claude Sherman, vous continuez à travailler sur les sujets dont vous avez parlé à l'instant, sur ces relations entre les rétrovirus et le cancer.
Complètement,
et
oui.
Qui ne sont pas a priori forcément liées à cette épidémie dont on n'est pas encore du tout certain qu'il puisse y avoir un lien entre les rétrovirus et le sida.
Ah, pour l'instant, on était le lien rétrovirus-sida n'était pas du tout établi. Bon, je suis revenu en 75, et de 75, je dirais, jusqu'à fin 82, début 83, bon, j'ai continué à travailler sur est-ce que les rétrovirus, s'ils ne sont pas directement la cause du cancer, puisqu'il y avait ces fameux oncogènes qui avaient été découverts, est-ce qu'en fait, ils ne vont pas jouer un rôle dans la migration des cellules tumorales et avoir un lien avec les métastases que l'on peut voir justement dans le cancer chez certains patients. Et puis je travaillais aussi avec un autre chercheur chez Jean-Claude Sherman qui, elle, s'intéressait à voir si chez des femmes atteintes de cancer du sein, est-ce que dans les globules blancs de ces femmes, on ne détecte pas des morceaux de gènes de rétrovirus, de souris, justement, chez ces femmes. Donc, voilà, on travaillait sur ces sujets-là chez Jean-Claude Sherman, lorsque, fin 1982, en fait, les cliniciens français qui avaient les premiers cas de sida sont venus nous voir à Pasteur, ou tout du moins ont téléphoné à Pasteur.
Pour poser la question de savoir si vous pouviez travailler sur les rétrovirus En lien avec le SIDA.
C'est ça, ils ont téléphoné, si je me souviens bien, à Luc Montagné pour savoir si éventuellement on serait intéressé à se poser la question si le SIDA serait pas lié à un rétrovirus. Tout du moins, ils avaient en tête un rétrovirus bien précis, puisque début des années 80 avait été identifié pour la première fois le premier rétrovirus humain, HTLV, qui est un rétrovirus qui est responsable de leucémie chez l'adulte, une forme de leucémie chez l'adulte, qui atteint plus particulièrement les lymphocytes T. Donc les cliniciens étaient au courant de cette découverte d'HTLV et se posaient la question si HTLV ne pouvait pas être la cause du sida. Et c'est pour ça ils ont téléphoné à l'Institut Pasteur, parce que certains d'entre eux, Françoise Brin-Vézina en particulier, avaient suivi le cours de virologie de l'Institut Pasteur, et elle se souvenait que Luc Montagné, Jean-Claude Sherman et moi, pour les travaux pratiques, on faisait les cours sur les rétrovirus. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont appelés.
Alors à l'époque, pour préciser les choses, Jean-Claude Sherman donc, est le directeur du laboratoire dans lequel vous travaillez, et Luc Montagné est le directeur de l'unité dans lequel se situe.
C'est ça, on était en fait un laboratoire annexé à l'unité de Luc Montagné.
Donc vous vous mettez à travailler sur ce sujet, à la demande, donc, comme vous l'avez raconté à l'instant, des cliniciens, et que se passe-t-il ?
Eh bien, en fait, on les rencontre juste avant Noël 1982. Willy Rosenbaum, Françoise Brin-Vézinet viennent à Pasteur. On les rencontre avec Jean-Claude Sherman et Luc Montagné. Ils nous expliquent finalement ce qu'est le sida, parce que nous, on n'avait pas encore réellement entendu parler de cette maladie sida.
Qui était très récente, en fait.
Qui avait été identifiée aux États-Unis en juin et décrite en juin 1981. Donc ça faisait juste un an et demi, je dirais, que la maladie avait été reconnue aux États-Unis. Et donc, nous, on ne connaissait rien de ce sida. Donc, ils sont venus nous expliquer les observations cliniques, épidémiologiques de l'époque, poser cette hypothèse, cette question de HTLV, de savoir ce que nous, on en pensait. Et bon, on n'était pas très, très partant pour cette hypothèse, parce que ce fameux virus HTLV, comme tous les virus qui sont associés à des leucémies, ils vont provoquer plutôt une multiplication, une prolifération des cellules tumorales. Et eux, en tant que cliniciens, étaient là à nous expliquer que les malades atteints de sida, ils avaient leur lymphocyte T4 disparaissait. Nous, on leur disait, il y a quelque chose qui va pas bien là, dans votre hypothèse. Vous nous proposez un virus qui, lui, va entraîner la prolifération. Et là, vous nous dites que là, les malades, ils perdent tous leurs lymphocytes. Donc, il y a quelque chose qui va pas. Néanmoins, l'hypothèse en soi est intéressante. Et donc, on a commencé à discuter avec eux de voir s'il n'y aurait pas un rétrovirus, mais sans partir justement de l'hypothèse HTLV. Et je crois que ça a été totalement déterminant. On a essayé de voir s'il n'y aurait pas un rétrovirus, HTLV ou un autre, qui serait associé justement à cette maladie nouvellement identifiée. Et on a réellement discuté avec Willy, avec Françoise, quel était le meilleur échantillon pour commencer à chercher. Parce qu'un patient en phase terminale de sida, c'était visiblement pas le bon moment, puisqu'ils avaient plus de lymphocytes T4. Et donc, réellement, c'est avec Willy qu'on a défini l'idée d'avoir un ganglion d'un premier patient qui n'était pas encore au stade sida, mais au stade pré-sida, comme on les appelait à l'époque, et de demander à un premier patient s'il acceptait d'avoir une biopsie ganglionnaire uniquement pour la recherche. Et voilà, et cette biopsie ganglionnaire, elle est arrivée à Pasteur. Il y a un patient qui a gentiment accepté, un patient de Willy Rosenbaum, qui a gentiment accepté de participer à la recherche, d'avoir une biopsie. Et cette biopsie est arrivée après les fêtes du jour de l'an, pas loin de la mi-janvier, quelque chose comme ça.
Donc
1983.
Et là, une fois que vous recevez cet échantillon, donc effectivement, c'est un moment décisif dans votre travail, que faites-vous sur cet échantillon pour analyser ?
Alors, les cellules de ce ganglion ont été mises en culture, d'ailleurs, dans le laboratoire de Luc Montagné initialement, puis après, il nous a apporté la culture. Et donc, on recherchait dans la culture régulièrement à tous les 2-3 jours la présence d'activités reverse transcriptase dans la culture des cellules ganglionnaires.
Donc reverse transcriptase, pour repréciser,
c'est la fameuse enzyme qui est liée, qui est absolument indispensable à la multiplication de cette famille de virus pour transformer leur ARN en ADN. Et donc, on peut la détecter réellement dans les tubes à essai au laboratoire. Donc, on faisait les prélèvements de la culture, on recherchait cette activité enzymatique. Et assez vite, on a commencé à voir effectivement un pic d'activité enzymatique qui était clairement spécifique de l'enzyme en question. De voir en même temps aussi la mort d'ailleurs des cellules en culture, ce qui nous a fait très peur, puisqu'on s'est dit, si les cellules meurent, s'il y a un virus, on est en train de le perdre. Donc là, à l'époque, il y avait une banque de sang encore à Pasteur, donc on a traversé la rue et allé à la banque de sang et demandé une poche de sang d'un donneur de sang pour isoler les globules blancs et remettre les globules blancs dans la culture. Et là, le même phénomène a été entrevu, à savoir une augmentation de l'activité reverse transcriptase et à nouveau mort cellulaire. Mais là, on avait compris ce qui se passait, on avait compris que c'était clairement lié à la production de virus, la mort de ces cellules en culture, et donc on savait comment faire pour maintenir le virus en culture en rajoutant régulièrement des cellules.
Donc là, c'était c'était le tout début. La preuve de l'existence d'un virus.
Alors, un rétrovirus probablement, mais comme je disais tout à l'heure, en recherche, il faut toujours confirmer. Ensuite, on a montré que cette activité enzymatique, elle était bien associée à des particules virales, que ces particules virales contenaient bien de l'ARN, qui était une caractéristique de la famille des rétrovirus. On a envoyé les échantillons de cellules qui produisaient le virus au microscopiste électronicien Charlie Doguet pour qu'il regarde sous son microscope s'il pouvait voir des particules virales que l'on connaissait en forme par rapport au rétrovirus. On savait leur taille, ça devait être à peu près de 100 nanomètres, que ça devait bourgeonner à la surface des cellules, etc., etc. Et après de longues heures de recherche, il nous a appelé en disant « je crois que je le vois, est-ce que vous pouvez venir voir sous le microscope ?» Et effectivement, c'était sous le microscope électronique, une particule de virus qui bourgeonnait, qui avait bien une enveloppe autour, mais qui avait une morphologie qui ressemblait pas à HTLV, par exemple, qui ressemblait pas au rétrovirus murin qu'on avait l'habitude de voir au microscope, même si la taille était similaire, même s'il y avait de l'enveloppe, même il y avait quelque chose de particulier. Et bien sûr, après, on a appris qu'en fait, c'était une sous-catégorie, je dirais, de rétrovirus bien particulière, qui n'était pas de la catégorie des oncovirus, ceux qui provoquent des cancers, mais au contraire, une autre famille qu'on appelle l'antivirus, et qui provoque un effet cytopathogène, la mort de certaines cellules et de l'inflammation.
Et tout cela en 2 mois?
Alors tout ça, un peu plus de 2 mois quand même, puisque tout ça a été publié dans la revue Science.
Non, je parle pour la découverte et l'identification et les photos, les premières images du virus.
Ça a pris janvier, février, je dirais mars, 3 mois à peu près, oui.
Est-ce que c'est pas extrêmement rapide pour une découverte de cette ampleur
Attendez, parce que là, on n'en était pas encore au lien entre le virus et la maladie SIDA, proprement parler.
Ah, vous en étiez où alors?
On a isolé un virus. Est-ce que c'est ce virus qui est responsable de la maladie SIDA, proprement parler? Possible, mais pas totalement confirmé. Savoir que on a vu que les patients atteints de SIDA, par exemple, avaient des anticorps contre le virus qu'on venait d'isoler. Alors que des patients qui avaient des cancers ou des maladies auto-immunes n'avaient pas d'anticorps contre le virus qu'on venait d'isoler. Ça, c'était des arguments en faveur d'eux. Mais les preuves définitives nécessitaient beaucoup plus de travaux, à savoir faire le lien réel, isoler le virus chez des malades atteints de sida, isoler le virus chez un receveur de sang et chez son donneur. Tout ça, ça a été beaucoup de travaux sur l'année 83, qui s'est poursuivi sur l'année 84 d'ailleurs, et puis caractériser complètement ce virus qui était nouveau, son matériel génétique, sa biologie, comment il se réplique, dans quelles cellules il se multiplie, quel est le, si c'est les lymphocytes CD4, par quelle voie d'entrée il rentre dans les lymphocytes CD4. Tout ça, c'était, il fallait tout faire en même temps, tout.
Donc la première étape, ça a été cette publication dans la revue Science du 20
mai 1983, oui.
Dans laquelle vous décriviez les résultats de vos travaux, sans avoir encore fait toutes les vérifications dont vous venez de parler.
Non, il y avait encore tous les liens à faire avec la maladie SIDA, à proprement parler, et puis caractériser complètement le virus.
Alors ce lien, il y avait quand même pas mal d'indices qui, comme vous l'avez dit, plaidaient en faveur d'un lien entre les deux. Comment l'établir? Quelle est la...
Ben, je vous ai dit...
La démarche
isoler le virus, un virus similaire ou identique à partir d'autres patients, dont des patients atteints de sida, cette fois-ci, à des stades précoces du sida. Par exemple, alors ça a été, il y a eu beaucoup de cas, mais un cas tout à fait frappant, parce que là le lien est assez évident, donneur de sang et receveur de sang, les deux ayant un sida. On isole le virus du receveur et on isole le virus du donneur. Et les virus semblent identiques. Donc là, on arrive à faire un lien parce que c'est le donneur a transmis le virus et la personne développe un sida. Donc c'est une des meilleures preuves que l'on puisse avoir, malheureusement, pour les personnes. Après, il y a eu des virus identifiés chez des hémophiles, des virus identifiés chez... malheureusement des homosexuels, chez des usagers de drogue, chez des couples où un des membres du couple avait infecté l'autre, y compris dans un couple ou un mariage, j'allais dire, à trois africains, où il y avait la femme, le mari et l'amant de la femme qui étaient tous les trois infectés et avaient développé un sida à des périodes différentes de leur infection. Et puis, en parallèle à tout ça, mettre en place des tests de dépistage pour détecter les anticorps liés à l'infection par ce virus et pouvoir faire ce qu'on appelle des larges enquêtes épidémiologiques, séroépidémiologiques, c'est-à-dire prendre des cohortes réellement ou des nombres suffisants de personnes atteintes de sida, des personnes à risque de sida, homosexuels, usagers de drogue, hémophiles, etc. De personnes avec des symptômes pré-sida, et de regarder comparativement à des personnes atteintes d'autres pathologies ou des donneurs de sang, et de voir qu'on ne voit des anticorps, on ne détecte des anticorps contre le virus que nous avions isolé uniquement chez les personnes en lien avec la maladie sida. On a fait des expériences aussi chez un chimpanzé, de transmettre le virus qu'on avait isolé à un chimpanzé, qui lui n'a pas développé de sida d'ailleurs, mais la transmission a pu être faite. De voir que les lymphocytes CD4 étaient la cible majoritaire de ce virus, que le virus rentrait dans ces CD4 par une protéine bien connue qui est toujours d'ailleurs la molécule CD4. Tout ça collait ensemble. C'est un ensemble, en fait. C'est comme un puzzle. On ne peut pas mieux comparer, je pense, à un puzzle. Vous avez des pièces et il faut compléter avec d'autres pièces. Et à la fin, quand toutes les pièces sont mises ensemble, l'évidence scientifique est là. Oui, c'est bien le virus qui est responsable.
Et ça, c'est à quelle époque que ça se produit?
C'est produit, je dirais... Alors c'est entre 83 et 85.
Donc quand même assez rapidement.
Assez vite, oui.
Par rapport à...
On avait mobilisé aussi d'autres chercheurs. Hein. Nous, on était une petite équipe, on ne pouvait pas faire tout seul. Donc il a fallu mobiliser d'autres chercheurs, d'autres disciplines, des immunologistes, des biologistes moléculaires, d'autres cliniciens, enfin ça a été mobilisons, il y avait urgence quand même. Là par contre on avait pris conscience de l'urgence et de la tragédie devant laquelle on était, parce que On savait déjà que le virus était transmis par le sang, par les dérivés sanguins. On savait qu'il y avait des transmissions de la maman à l'enfant. Tout ça, on le savait pratiquement même avant qu'on ait isolé le virus, tout ça. Alors, une fois qu'on avait le virus, ben, il fallait empêcher tout ça le plus vite possible, tout en connaissant mieux le virus pour pouvoir réfléchir justement à des stratégies thérapeutiques.
Donc, en fait, cela se produit à peine 10 ans après votre doctorat, ce qui est assez court pour une découverte de cette ampleur.
Oui. Oui. Bon, on n'a pas, ouais. On a pas molli.
Vous n'avez pas, oui, effectivement, perdu de temps. Là, après cette phase de caractérisation que vous, dont vous venez de nous parler, effectivement, il y a la deuxième phase, c'est le diagnostic. Ah ben mettre ça, au point les outils de diagnostic.
Ça s'est fait en parallèle.
En même temps.
Avec nos collègues, justement, des hôpitaux, Françoise Brun-Vézina et Christine Rousiou, on s'y est mis tout de suite à produire, j'allais dire, des litres et des litres de virus et à fabriquer à l'échelle artisanale de notre laboratoire des tests sérologiques pour faire les études épidémiologiques et puis commencer à discuter avec une société. Privé qui était Sanofi Diagnostic Pasteur à l'époque, pour qu'ils puissent produire les tests et les commercialiser. Parce que ça, nous, on ne sait pas faire dans les laboratoires de recherche, faire des tests à large échelle. Donc on a commencé à travailler aussi avec eux, dès 84 d'ailleurs, pour qu'ils nous aident et surtout ils passent au développement et à la commercialisation.
La commercialisation qui a lieu...
Juillet 85.
En juillet 85, ça c'est aussi assez rapide.
Très rapide.
Par rapport à ce qu'on sait des développements médicaments.
Moi c'était aussi une expérience pour moi. C'est la première fois où je travaillais avec des gens du privé. C'est la première, je crois que c'était la seule d'ailleurs. Où ils s'étaient installés dans notre propre laboratoire pour apprendre en même temps, pour ne pas perdre de temps.
Donc ça a été une collaboration dans ce cas-là qui a été d'une efficacité impressionnante en termes de délai. Parce qu'il faut
efficace.
Des fois 10 ans pour mettre au point un médicament. Donc là, en 2 ans, c'était fait. Vous dites souvent que le sida a changé la recherche. À quoi faites-vous allusion dans cette affirmation?
Je ne dis pas exactement ça. Je dis souvent que le sida a changé ma vision de faire de la recherche. Avant le sida, avant le VIH, comme tous les chercheurs, beaucoup de la majorité des chercheurs, je travaillais au laboratoire, j'avais pas de contact avec les patients, pas de contact ou très peu de contact avec le milieu de la clinique. Et qu'avec le VIH, je me suis retrouvé finalement du jour au lendemain, pratiquement, à avoir cette relation avec la clinique. De me retrouver face à des patients et à des personnes vivant avec le virus qu'on venait d'isoler, de voir la détresse finalement de ces personnes qui étaient dans un état absolument incroyable, qui étaient encore des gens jeunes, qui on le savait, allaient mourir. Quoi. Ils n'auraient pas le temps de pouvoir, pour la majorité d'entre eux, bénéficier du développement futur des travaux de recherche. Et que cela, ça m'a changé ma vision de la recherche dans le sens où là, justement, je me suis dit, la recherche, c'est bien parce que ça apporte des connaissances, mais il faut que ces connaissances, elles soient, on les définisse, les axes prioritaires de nos connaissances par rapport aux besoins les plus urgents pour les patients. C'est dans ce sens-là que ça a changé ma perception. On n'a pas le temps de s'amuser, là. S'amuser entre guillemets. On est là, il est notre responsabilité à nous chercheurs de faire le plus vite possible pour essayer d'avoir dans les mains des outils qui leur permettent à vivre, qui leur permettent de vivre dans des bonnes conditions, qui leur permettent de leur donner ce qu'ils attendent de nous, chercheurs.
Alors on n'en est pas là, puisque là on en est au diagnostic en 1985. Combien de temps?
Mais on en était déjà là aussi, hein, puisqu'on commençait déjà, nous, à réfléchir quel type de médicaments on va pouvoir utiliser. Très vite, on a commencé avec Dominique Dormont un clinicien chercheur à essayer de comprendre la reverse transcriptase du virus, est-ce qu'on peut pas l'inhiber par cette fameuse HPA23 sur lequel j'avais fait ma thèse, et là l'HPA23 marchait, et ça c'était en parallèle avec le développement des tests de diagnostic, donc on perdait pas de temps, on partait à plusieurs dans différentes voies parce qu'il y avait urgence. Et donc, ça a permis, même si ça n'a pas marché, à Dominique Dormont, en tant que clinicien, de commencer à traiter des premiers patients atteints de sida dans les phases terminales avec cette HPA23, cette molécule HPA23, en se disant peut-être que ça va contrôler le virus. Ça n'a pas marché. Mais on avait déjà ça en tête en parallèle de développer des tests de diagnostic.
Et pour parvenir à une thérapie, il a fallu combien de temps ?
Alors, l'AZT, la première molécule qui a montré une certaine efficacité de tête, c'est 86-87.
Là aussi, un délai extrêmement court.
Extrêmement court aussi. Et ça a été fait aux États-Unis, où ils ont montré que l'AZT bloquait la multiplication du virus, avec des premières études chez des patients infectés par le virus du sida, mais rapidement aussi, on a vu que l'AZT seul, ça marchait pas, puisque malheureusement, il y avait les patients allaient mieux, leur virus était contrôlé pendant un temps, et puis il y avait le virus redémarrait, et avec un virus qui était résistant justement à l'AZT. Donc très vite, on a compris que ça suffirait pas, et il a fallu attendre les combinaisons thérapeutiques de trois médicaments, les fameuses trithérapies, qui ont été montrées leur efficacité en 96, donc un peu plus, il a fallu attendre un peu plus longtemps. Néanmoins, en 94, il y a eu la description pour la première fois que l'AZT seul pouvait être utilisé pour prévenir la transmission du virus de la maman à l'enfant. Donc dès 1994, et je dis toujours quand on parle de la PrEP aujourd'hui, ou quand on parle du traitement en prévention, qu'on n'oublie pas que 1994, on savait déjà que le traitement c'était la prévention.
Alors 96, la trithérapie arrive, et aujourd'hui, on en est un peu toujours là.
Alors on en est toujours à la trithérapie, mais pas la même trithérapie que 1996, parce que là c'était le début de ces traitements avec trois médicaments à prendre à des heures bien fixes de la journée et de la nuit, avec des effets secondaires terribles chez les patients. Tout ça s'est bien amélioré au fil du temps. Aujourd'hui, on est né à un stade où c'est incomprimé par jour. Et avec très peu d'effets secondaires. Il y a une qualité de vie qui est excellente pour les patients. Donc les choses ont quand même bien, bien changé par rapport à la trithérapie 1996.
Merci Françoise Barré-Sinoussi. Nous vous retrouverons demain soir pour faire un bond de 25 ans en avant et parler de prix Nobel, de votre prix Nobel.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Michel Alberganti avec Françoise Barré-Sinoussi. À voix nue, réalisation Delphine Lemaire, prise de son Yann Fressy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.